Bonjour à toutes et à tous. Je suis Elena Berkaoui, la rédactrice en chef du Bondi Blog. Chaque mois, depuis la naissance de notre média, on invite une consoeur ou un confrère pour discuter de sa carrière, de son parcours et de sa vision du métier. Ce mois-ci, on a reçu Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde et écrivaine. Si beaucoup de personnes l'associent à ses révélations sur l'affaire Benalla, Ariane Chemin est aussi et surtout une conteuse. Elle fait partie de ces journalistes qui nous embarquent pour nous raconter des histoires. L'histoire du recrutement de milliers d'ouvriers marocains pour les mines françaises par Félix Mora. L'histoire de Patrick Buisson, éminence grise de Nicolas Sarkozy et artisan du rapprochement de la droite et de ses extrêmes. En ce moment, elle raconte surtout l'emprise de Vincent Bolloré sur les médias et sur le monde politique. Des histoires aussi importantes que passionnantes. Faites-vous un café, attrapez une madeleine. C'est parti pour la masterclass d'Ariane Chemin. Ariane Chemin, vous venez de quel milieu? Vous avez grandi à peu près dans quel environnement? Et est-ce que le journalisme, ça a toujours été une vocation?
Pas du tout. Alors déjà, c'est super gentil. Bon, d'abord, je suis hyper contente de venir parce que j'étais venue quasiment au début du Bondi Blog, dans les anciens locaux. Donc voilà, donc, c'est, je ne sais pas, il y a 10 ans peut-être, je ne sais pas. Grâce à Faïza, qui est une amie, Faïza Zeroual. Et alors, c'est très gentil de dire Caria, mais je n'aime pas trop prononcer ce mot parce que je me dis, bon, c'est quand même, ça reste, j'espère que ça reste quand même un peu un métier de saltimbanque, journaliste, alors j'aime pas trop utiliser ce mot. Mais okay. Non, alors, je n'ai pas du tout de vocation de journaliste. En fait, j'ai grandi dans la banlieue parisienne, mais pas la banlieue, pas dans le 9-3. Dans une, j'étais au lycée de Saint-Cloud, j'ai toujours été à l'école publique, j'étais au lycée de Saint-Cloud. Et j'étais plutôt littéraire et je ne savais pas très bien quoi faire. J'avais pas très envie d'être prof, je savais pas très bien quoi faire. Et c'est vrai que ma mère est infirmière et mon père travaillait chez Renault. Et je dois dire que c'était, on n'était pas, autant mes parents nous ont beaucoup fait lire, on était trois, on a beaucoup lu de livres et tout, mais c'était pas, il n'y avait pas du tout de passion de la presse ni des journaux. Et à vrai dire, je ne connaissais aucun journaliste. Vraiment, c'était pour moi un monde inconnu. C'était un peu comme quand on veut être médecin, on regarde les séries sur les voilà, urgences, on se dit j'aimerais bien être médecin, mais je ne connais pas de médecin. Bon, je ne connaissais pas du tout de journaliste. Je vous raconte toute l'histoire, ce n'est pas très intéressant. Mais mon père avait un copain petit qui travaillait comme petite main à la Bourse de Paris. Ça existait encore à l'époque, ça ne me rajeunit pas. Et il apportait les ordres, il courait partout à la corbeille, etc. Et donc, il connaissait un journaliste du Monde qui s'occupait des finances, qui est aujourd'hui décédé. Et j'avais dit au copain de mon père, bah, mon père, est-ce que tu voudrais pas lui demander si je pourrais pas faire un stage au Monde? Et donc, comme on n'y avait jamais demandé ce genre de choses, il avait demandé au journaliste qui m'avait pris. Et à vrai dire, quand j'y réfléchis à l'époque, c'était un peu de la confiture au cochon parce que je connaissais tellement rien au journalisme que j'ai débarqué là-dedans. Je ne savais même pas faire une brève, je ne savais rien faire. Et je crois que si je suis complètement honnête, ce qui m'a plu d'abord, c'est l'ambiance du journal. C'est étrange, hein? Et un peu comme quand on, effectivement, on peut avoir aimé une ambiance de salle de garde, je ne sais pas. Et moi, j'ai aimé ce truc-là de l'urgence, du quotidien. Voilà. Et j'ai fait un stage, à mon avis, très médiocre parce que je ne savais rien faire. Ce n'était pas quelque chose à laquelle j'étais habituée. Et donc, à la fin du mois, ils m'avaient gentiment envoyé faire... Il y avait une grève de péniches sur la Seine. Donc, j'étais allée faire mon premier article sur les péniches. Voilà, et c'est comme ça que le goût m'est venu après. J'avais 20 ans, 21 ans peut-être.
D'accord.
Ouais, je dirais ça. Et voilà, et après, je me suis dit, je veux être journaliste. Mais c'était l'époque plus facile, je pense, où on pouvait être journaliste sans faire d'école de journalisme, ce qui est mon cas, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Ouais. Mais après, je suis revenue.
Vous avez fait l'Institut d'études politiques, c'est ça?
Voilà. Mais en fait, quand j'ai refait un stage au Monde, et à la fin, il m'avait dit, est-ce que vous voulez rester? Et bêtement, comme j'avais. Bêtement, parce que je pense que ce. Enfin, je dis ça maintenant, mais il m'avait dit, est-ce que vous restez, on peut vous embaucher. C'était l'époque des vaches grasses, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et donc, moi, j'avais tenté Sciences Po, j'avais réussi, je dis, ben non. Et donc, du coup, après, j'ai perdu presque 5 ou 6 ans de métier, parce que j'ai fait cette école dans laquelle je n'ai pas été très heureuse. Et ensuite, il fallait que je retrouve du travail, c'était très difficile, donc je suis restée pigiste au moins 4-5 ans, alors qu'en fait, on m'avait proposé, malheureusement, un CDI auquel j'ai dit non, mais avec le recul, je me dis, j'aurais gagné 5 ans si j'avais dit oui. Voilà, enfin, c'est pas très intéressant, mais
c'est pas intéressant. C'est vraiment littéralement pour ça que tout le monde est venu. Non, c'est vrai que le CDI qu'on propose comme ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est
impossible. Et j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pas saisi la chance.
Oui, mais après, elle s'est retournée. Ouais, et du coup, vous réussissez à rebifurquer comment vous commencez bah,
je fais en pige. Donc, très longtemps, je me souviens, je fais des piges pour le concurrent du petit futé qui s'appelait comment ? Je sais pas, j'avais fait toutes les boucheries de Paris, je me souviens, et les magasins de les orfèvreries. Donc, je mettais des notes, je faisais trois lignes dans les guides, des trucs comme ça, quoi. Et puis, j'ai commencé comme ça, et j'ai travaillé dans un tout petit journal que personne ne connaît, qui s'appelle, c'est un journal protestant qui s'appelle Réforme, parce que mon grand-père était pasteur, je suis protestante, et voilà. Donc, il m'avait pris en pigiste, et puis après, j'ai fait des piges pour le supplément radio-télé du Monde. Et finalement, au bout d'un moment, je suis restée, et j'étais embauchée au service politique. C'est là que j'ai commencé, quand j'étais embauchée.
Et au service politique, ça se passe comment quand vous arrivez ?
Eh ben alors c'est
une passion que vous aviez, ça vous intéressait beaucoup déjà ou pas ?
Alors, j'ai jamais été militante du tout, mais ça m'intéressait. En fait, c'était c'est comme j'y repense maintenant, j'arrive à l'analyser, je le faisais pas à l'époque. J'y arrivais à une époque où on était très copines, il y avait ma consoeur Raphaël Baquet, que vous connaissez sans doute, et il y avait Pascale Robertard, qui est notre grande chroniqueuse judiciaire, etc. Et on était toutes les trois au service politique. Et on était de la même génération. Et on est arrivé avec, je pense, on l'a pas théorisé ni pensé, mais c'était d'abord un service extrêmement masculin, un service où, je peux vous dire, ça rigolait pas. Moi, il fallait être là tous les matins à 7h. Si vous loupiez un truc sur votre rubrique, si jamais il y avait un papier dans l'IB sur votre rubrique, mais on se faisait engueuler, quoi. C'était très dur, mais c'était une bonne école. Mais très dur, je me souviens vraiment que c'était pas facile. J'ai le souvenir de m'être enfermée 10 fois dans les toilettes pour pleurer. Mais c'était très formateur. Et moi, je m'occupais. Ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivée en 95. Et on m'a dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, le Parti communiste est en train de disparaître, etc. Donc, vous allez vous occuper. À l'époque, on appelait ça la petite gauche. Et la petite gauche, c'était, à l'époque, le Parti communiste. Il n'y avait pas les filles encore. Mélenchon était toujours au PS. Donc, c'était les Verts, les radicaux de gauche, la LCR, l'OCI, etc. Et on me dit, bon, évidemment, ça ne va pas vous occuper à temps plein, donc l'autre sera à mi-temps et l'autre moitié, vous irez au Parlement. Et sont arrivées les grandes grèves de 95, de fin 95. Évidemment, ma rubrique, qui faisait une demi-rubrique, soi-disant, est devenue une rubrique et demie. J'arrêtais pas de travailler et j'ai jamais mis les pieds à l'Assemblée. Parce que, en fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je le dis sans aucune accusation. Ou, voilà, mais c'était, en même temps, quand j'y pense, quand on m'a donné la feuille de route, c'était un manque de discernement total. C'est-à-dire que, voilà, et la petite gauche, c'était celle qu'aujourd'hui est largement majoritaire. C'est ça qui est intéressant. Et donc, comme quoi, l'époque a changé. Donc, je suivais tout ça. Et ce qui était très amusant et intéressant, bon, c'était beaucoup l'époque des mouvements sociaux, etc. Et moi, je passais mon temps à aller chez les usagers des Verts, de la LCR, du Parti communiste. Il y avait le mouvement de Jean-Pierre Chevènement aussi, le mouvement des citoyens. Donc, c'était des samedis et dimanches dans des hangars, etc., dans tous les coins de France. Et d'ailleurs, ça m'a donné une forme de respect, je pense, des hommes politiques, parce que je pense qu'il faut quand même croire à quelque chose pour aller passer ces samedis, ces dimanches, ces vendredis soirs, dans des hangars un peu glacés, à parler à des foules qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Il faut quand même croire à quelque chose. Et puis très vite, il y a eu la dissolution de... vous n'étiez peut-être pas née, la dissolution de l'Assemblée nationale en 97. Et cette gauche, qui était la petite gauche dans l'esprit du Monde, enfin de mon journal, eh ben, elle est devenue, autour de Lionel Jospin, tous ces leaders de parti auxquels personne ne s'intéressait vraiment, sauf les rares rubricards comme moi, eh ben, ils sont devenus ministres. Et donc, c'est ce qu'on appelait à l'époque la gauche plurielle. Et là, c'est devenu très amusant pour moi, parce que ces gens-là, au fond, je les connaissais. J'avais passé tellement de temps dans les meetings, les journées d'été, que tout d'un coup, ils devenaient ministres. Et puis, c'était pour moi, mais du coup, c'est devenu des sources super, parce qu'ils étaient au Conseil des ministres, et voilà, et c'était mouvant, etc. Mais c'était intéressant, parce que je me souviens très, très bien que quand il y a la dissolution, moi, j'avais dit à une réunion au service politique... Je crois que le Parti communiste pourrait avoir des ministres. Et je me souviens de l'éclat de rire général de mes chefs. Mais ce n'est pas du tout une critique que je fais. Mais eux, ils vivaient dans l'histoire du vieux Parti communiste, dont ils avaient d'ailleurs beaucoup souffert. Moi, je me souviens que, bon, à l'époque, le chef du service politique, il me racontait quand il couvrait les comités centraux du Parti communiste, quand il remontait l'allée, parce qu'il appartenait au Monde, donc à la presse bourgeoise, il se faisait siffler toute la longueur de la remontée. C'était une autre époque. Et donc... Ils m'ont pas cru quand j'ai dit qu'il y aurait des ministres communistes. Puis après, je me souviens, il y avait les européennes. J'ai dit, bon, je vais faire un portrait de Daniel Cohn-Bendit parce qu'il va être tête de liste aux européennes. Et là, je me souviens, les yeux arrondis de mes chefs, qui disaient, mais Daniel Cohn, me dit celui de mai 68. Je dis, ben oui, il est député européen et tout. Et c'était en fait, du coup, je pense, un bon choix de la part du monde d'avoir mis quelqu'un qui n'y connaissait rien, c'était mon cas, complètement novice, mais du coup, qui n'avait pas, peut-être pas ces barrières du passé, et qui avait compris que ben, Robert Hue, c'était pas Staline, quoi. Ouais. Si je peux le dire en très résumé. Voilà, donc c'était passionnant, c'était vraiment passionnant, j'ai adoré ça. Ensuite, j'ai suivi la campagne présidentielle de Lionel Jospin, avec peut-être ce souvenir que j'ai gardé de très, très, très étrange, et que je me souviens très, très bien du soir. On l'a vu beaucoup depuis dans des documentaires politiques, etc., cette soirée du 21 avril, donc moi, je vais au... J'avais loué une salle pour fêter le premier tour, parce que personne n'imaginait que Jean-Marie Le Pen allait prendre la place de Lionel Jospin au second tour face à Jacques Chirac. Et donc, ils avaient tout préparé. Il y avait quand même une drôle d'ambiance. J'ai dû arriver vers 7h30 le soir. Et tout d'un coup, c'est la phrase de Lionel Jospin, un coup de tonnerre. Il fait ce discours pour dire, voilà, j'ai perdu et je me retire de la vie politique. Et je me souviens très très bien que j'avais plein de confrères et de consoeurs qui pleuraient autour de moi, journalistes quoi. Ah ouais. Et moi, dans un espèce de, je dis pas que c'est glorieux, mais dans un espèce de truc de, je crois que la part journaliste était plus grande que la part citoyenne. Évidemment que ça m'amusait pas que Jean-Marie Le Pen soit au second tour, mais j'avais déjà l'excitation journalistique. J'étais déjà en train de penser à papier que j'allais faire, comment expliquer un grand récit pour expliquer la chute de Jospin, voilà. Et j'étais dans cette excitation-là. Et ce truc-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont raconté. Je l'ai trouvé dans quelqu'un qui n'est pas mon auteur fétiche, mais je l'ai lu dans un livre de Michel Houellebecq qui s'appelle « Soumission », où il a pris comme personnage David Pujadas. Et il met en scène David Pujadas qui annonce la défaite. Ce n'est pas forcément cet épisode-là, mais... qui annonce l'arrivée au second tour d'un personnage du Front National. Et lui-même, il raconte cette schizophrénie au Houellebecq. Et je ne pense pas que d'autres auteurs l'aient fait, donc ça m'avait intéressé. Il raconte la schizophrénie du journaliste qui ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, et qui dont l'excitation journalistique est peut-être plus grande à ce moment-t, évidemment, que la conscience citoyenne et tout. Donc là, je voyais, je me mets à nu. Ce n'est pas très glorieux pour moi de vous raconter ça, mais je me souviens de cet épisode.
C'est marquant. Juste pour quand vous arrivez, parce que c'est quand même des petits partis, la LCR, si je dis pas de bêtises, c'est l'ancêtre du NPA.
Oui, exactement. C'était Alain Crivine à l'époque qui le dirigeait. Oui.
Avec plein de ramifications, de guerres. Enfin, c'est des grosses histoires et tout ça.
Oui.
Quand on arrive un peu profane et tout. C'est, ouais.
Je me souviens même.
Cette question. Et aussi, on sait maintenant qu'il peut y avoir des. Enfin, que c'est dur d'être une femme dans une rédac, mais aussi avec des politiques. À cette époque-là, c'était comme ?
J'en ai pas du tout souffert. Je vais être franche, alors peut-être que c'est un effet de génération que je ne me suis pas rendu compte. Non, c'était justement un moment où le service politique du Monde se féminisait beaucoup. Je pense à Pascal et à Raphaël. Et où nous, on apportait quelque chose. C'est-à-dire qu'on était les générations qui, aujourd'hui, tout le monde décrypte les plans com de la politique. C'est fastoche, c'est facile. N'importe qui sur son compte Twitter peut le faire, qu'il soit journaliste ou pas. À l'époque, ça ne se faisait pas tellement. Et on passait beaucoup de temps avec Raphaël et Pascal à ça, à décrypter les plans com. Et ça ne se faisait pas. Donc, on faisait des articles un peu nouveaux. On avait inauguré aussi le genre du récit politique. Je me souviens, tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs, on restait au journal, toutes les trois et d'autres. Et on faisait un grand récit de la semaine. Et ça ne se faisait pas du tout avant. Donc, c'était passionnant, à vrai dire. Mais c'était intéressant aussi parce que c'était l'époque où on pouvait s'amuser avec les plans com. Et j'ai un souvenir précis, mais je l'ai déjà raconté, où après la présidentielle de 2002, justement, à l'époque, c'était Louis Plenel qui était le directeur de la rédaction. Il m'avait convoqué dans son bureau. À l'époque, j'étais atrocement vexée parce qu'il m'avait dit... tu t'amuses, tu es dans l'humour tout le temps, tu es caustique. En gros, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Ce qu'il voulait me dire, je pense, même s'il l'a pas dit comme ça, c'est que c'était plus l'époque. Et c'est vrai. Il y a un moment où quand Jean-Marie Le Pen est au second tour, on se dit bon, est-ce qu'on va continuer à décrypter les points en commun ? Est-ce que c'est ça au fond l'urgence ou est-ce que c'est ça le... Et je me souviens de cette phrase. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai arrêté le journalisme politique, mais je voulais l'arrêter parce que j'en avais fait 7 ans, J'ai adoré ça. Je trouve ça passionnant. Je trouve ça peut-être plus facile que d'autres formes de journalisme. Je trouve que c'est plus facile de faire des choses politiques que de faire des infos gênées, par exemple, mm-hmm. ou du fait divers. Mais je pense que c'était le bon moment pour arrêter, quoi. Mm-hmm. Et donc, après, j'ai fait complètement autre chose. Je suis partie faire du reportage au service société, tout ça, du fait divers. Mais c'était passionnant, évidemment. C'était ouais. super. Mais c'est complètement une autre époque.
Mais c'est trop intéressant ce que vous racontez sur le fait que vous restiez à Troyes pour faire des
tous récits. Les vendredis soirs, on restait toute la nuit. Et on faisait, ça s'était titré, récit du service politique. On faisait le récit de la semaine. Et aujourd'hui, avec un ton assez léger, on se moquait. On se moquait beaucoup des politiques, c'est vrai. Ce qui n'était pas du tout le cas. C'est pas du tout ce qu'on faisait dans le service politique avant. Ouais. Mais c'est quelque chose que je ferais peut-être plus comme ça aujourd'hui. Parce que... d'une certaine manière, évidemment qu'il faut dénoncer de double discours, etc. Mais là, c'était léger et la politique, c'est plus tellement léger, quoi.
Oui.
C'est ça qui a changé.
Ouais, non, je vois. Après, vous partez à l'Op, c'est ça, un moment ?
Je pars un petit moment. Alors après, je fais des faits divers. J'ai adoré ça, j'ai trouvé ça très difficile. C'est un monde journalistique très concurrentiel. C'est difficile, hein. Mais j'ai beaucoup aimé. J'assiste à un pot de départ au monde... un peu triste de quelqu'un qui était resté là pendant 30 ans, 40 ans. Il n'y avait pas grand monde parce que, vous savez, c'est les pots de départ. Vous avez un rendez-vous, vous avez un papier à finir, etc. Mmh. On se dit, bon, ben non, vraiment, je ne peux pas y aller, etc. On buvait un peu de champagne chaud dans un verre en plastoc, là, et tout. Et j'avais trouvé ça. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas rentrer dans un journal et mourir dans ce journal. Ce n'est pas possible. J'ai eu une espèce d'instinct de survie. Je me suis dit, c'est horrible. Et comme j'avais eu gentiment une proposition de l'Obs, je suis partie 3 ans, où j'étais très heureuse, parce que c'était complètement autre chose comme journal. D'abord, c'est un magazine avec une grande tradition d'écriture. Donc, je crois que ça m'a délié la plume et ça m'a appris à écrire beaucoup plus magazine, à fabriquer des... j'ai aussi appris l'enquête. Parce que je crois aussi que le monde n'a pas une tradition d'enquête. Le monde a eu très longtemps une tradition de scoop, notamment à l'époque d'Edouard Plenel, de Gattegno, etc. Mais c'était surtout des scoops... là aussi, il faudrait couper, je crois, parce qu'ils vont être contents s'ils m'écoutent.
Pas de sonatof.
Mais c'était plutôt une tradition de scoop sur procès-verbaux, quoi. Et il n'y avait pas vraiment de tradition d'enquête au monde, alors qu'il y en avait une. Il y en a une à l'Obs. Et ça, j'ai beaucoup appris. Ce que j'appelle enquête, c'est... se saisir d'un sujet. Je me souviens, la première enquête que j'avais faite, c'était sur Alexandre Joury, que vous connaissez peut-être, qui est un intermédiaire d'armement. Mais à l'époque, personne n'en avait jamais parlé. On n'arrivait même pas à trouver l'orthographe exacte de son nom. On le trouvait vaguement au coin d'une petite dépêche dans une lettre confidentielle. Et j'avais fait cette enquête avec Marie-France Etchegouin, qui est une très grande enquêtrice. Et, je ne sais pas, elle m'a appris à voir 80 personnes avant d'écrire un article. C'est ça que j'ai appris là-bas. Ouais. C'est la tradition de l'enquête. Et ce n'est pas... le monde a beaucoup d'autres cordes à son arc et tout, mais c'était à l'époque pas tellement une tradition monde. Le monde, c'était le scoop, l'exclusivité du PV d'un tel, c'était plus ça, ouais. Je dirais.
Ouais. À l'Obs, vont donc vous développer.
Voilà, non, mais j'y reste 3 ans. Ouais. Et puis, j'ai la chance, je vais retourner dans ma maison en disant voilà, je suis très triste, je voudrais rentrer, je voudrais revenir. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que. C'était Eric Elzavitch qui, malheureusement, est mort depuis, qui était le directeur de la rédaction et qui m'a reprise. Voilà.
J'aimerais bien que vous nous parliez du documentaire, donc La vie devant nous, de l'enquête plus globalement que vous avez réalisée avec Mariam Tiganimine.
Ça s'est fait parce que je faisais une enquête pour faire un livre sur la ville de Trappes. Et je voulais absolument aller parler avec les responsables de la mosquée qui ne voulaient pas parce qu'ils avaient été traumatisés par un documentaire qui avait été diffusé sur France 2. Peut-être au moins 5 ans avant. Donc on devait être en 2018, je crois. Puis finalement, j'obtiens mon rendez-vous. Je me souviens, c'était le 14 juillet, en pleine vacances et tout. Peut-être qu'ils ont pensé que ça me découragerait. Donc je prends le train pour aller à la mosquée de Trappes. Et là, je suis reçue par plusieurs personnes. L'imam, plein de... voilà. Et il y avait un vieux monsieur en camis blanc, assez âgé, qui avait plus de 90 ans, et qui assistait là aussi à l'entretien. Et à la fin, je discute avec lui. Et je lui demande depuis combien de temps il habitait à Trappes, comme ça, mais de manière informelle, c'était pas du tout pour... Et il m'explique qu'il avait été travailler aux usines Citroën, voilà. Et il me dit, je suis venue par Mora, et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Vous auriez peut-être plus compris que moi, mais moi, je comprenais pas. Je dis par Mora, et donc il y avait l'imam qui était là, qui me dit, oui, Félix Mora, si vous cherchez bien, sur Internet, vous retrouverez, il y a eu un article sur lui, etc. Je crois que c'était un article assez ancien, du Monde Diplo. Et je commence à lire ça, ce Félix Mora, qui était ce qu'on appelle, il y en a eu 4 ou 5 pour l'industrie française, un recruteur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaillait pour les mines du Pas-de-Calais et de Lorraine et qui se rendait régulièrement au Maroc, dans le sud marocain, pour recruter dans les années 50 et 60, celle des 30 glorieuses, quand on avait besoin de main-d'œuvre, comme il n'y avait pas assez de main-d'œuvre en France, il allait recruter des Marocains. Et cette histoire m'a passionnée. J'ai commencé à lire plein de trucs et tout. Et ce qui avait peut-être été aussi un déclic, c'est que de temps en temps, je vais faire des... Quand c'est la semaine de la presse à l'école, je commençais à travailler là-dessus, etc. Puis souvent, les très jeunes élèves, quand vous allez les voir, d'ailleurs, c'est toujours... C'est très drôle parce que les premières questions, quand on la comprend toujours, la première question, c'est toujours « Madame, ça gagne bien, journaliste ?» Et la deuxième question, c'est « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Et donc, moi, je disais « Mais écoutez, je suis en train d'essayer de faire une enquête sur quelqu'un qui s'appelle Félix Mora. » Et dans les deux classes où j'avais été, une, je crois que c'était à Épinay, et l'autre, enfin, c'était dans deux banlieues très différentes, deux banlieues parisiennes très différentes, il y avait au moins deux élèves qui disaient « Ah, mais mon grand-père est arrivé avec Félix Mora. » Je me dis « Ça, alors, c'est quand même... bon. » Et c'est intéressant. Et donc, j'ai commencé à faire cette enquête sur ce recruteur. Et en fait, c'est un bout d'histoire de France qui n'était pas raconté, qui m'a... Et à vrai dire, j'avançais un peu et un jour je déjeune avec Faïza que j'ai connue au Monde quand elle était au Monde et je lui dis tiens c'est comme ça, elle me dit mais j'ai une copine Marianne Tiganigim qui tient un blog et elle a raconté, elle a parlé de Félix Mora parce que son père était arrivé avec lui et donc elle me présente Mariam et donc on devient voilà on, et on décide d'abord je fais une enquête écrite pour le Monde et après on en fait avec elle un documentaire avec Frédéric Lafont et qui d'ailleurs, dont Mariam est le personnage principal et sa famille aussi, d'ailleurs. Et voilà. Et ça, c'est vrai que ça m'a intéressé d'explorer. Il y a tout le temps des tas de bouts d'histoire de France qui ne sont pas dans les livres d'histoire, qui ne sont pas racontés, qui ne sont pas seulement une histoire de l'immigration. Ce serait faux de dire ça. C'est un bout d'histoire de France, puisque voilà. Et ces ponts-là, comme ça, ça m'a... Alors, évidemment, j'étais pas forcément. Je ne dis pas du tout que j'étais la mieux placée pour raconter ça, même si quand même j'avais un grand-père mineur au Pays de Galles, mais rien à voir avec cette histoire-là. C'est vrai que si je devais... Moi, quand je vois des documentaires, quand je vois des sujets télé, quand je lis des articles, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des choses que j'ignore complètement. C'est cette fameuse formule « Tell me something you don't know ». Et ben moi, je pense que le journalisme, c'est ça. C'est raconter des choses qu'on n'a pas vues ailleurs, lues ailleurs, etc. Et Félix Mora, c'était pour moi exactement ça. Alors, il y a encore, si vous avez envie de vous lancer dans des enquêtes, il y a encore deux gros recruteurs comme ça dont on n'a pas parlé et qui n'étaient pas des
romans.
Je vous donnerai les noms après. Mais c'est vrai que c'était un métier qui n'a jamais été raconté. Parce que, voilà. Et c'était pas facile de le raconter aussi parce que le raconter maintenant... Je sais que j'ai eu cette conversation mille fois, et notamment avec Daniel Schneiderman, avec qui je me suis engueulée là-dessus, parce qu'il me disait que c'était un négrier. Je dis, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'était pas un négrier, parce qu'un négrier, il aurait fait venir des esclaves. Là, les mineurs marocains étaient très mal payés, mais ils étaient payés. Donc je ne peux pas te laisser dire que c'est un négrier. Je me souviens qu'il m'avait invité dans une émission où c'était très très mal passé, j'étais partie furieuse. Mais c'était intéressant de voir à quelle époque on raconte ces histoires. Je pense que je l'ai raconté aujourd'hui, pas comme on aurait pu le raconter si elle l'avait été racontée il y a 10 ans, et peut-être pas comme on la racontera dans 10 ans.
Ouais,
mais c'est ce choc qui est intéressant aussi.
On sait qu'il y a un souci de raconter des histoires. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a ça. Comment vous faites pour... à quel moment vous vous dites, tiens, c'est une histoire à raconter? Je pense que ce soit, par exemple... La question, elle se pose mieux peut-être sur le dernier bouquin que vous faites. À quel moment, en fait, vous vous dites, ah tiens, ça, en fait, il y a un truc à creuser, je vais mettre dessus, je vais prendre du temps.
C'est un bon exemple parce que j'ai failli ne pas y aller, justement. En fait, c'était une discussion avec un éditeur qui s'appelle Adrien Bosque, qui a créé au sein des éditions du Seuil une petite, enfin pas une petite, une super belle collection, qui est une collection de ce qu'on appelle non-fiction. On peut dire, il y a plein de formules pour parler de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas du roman, ça n'est pas inventé, c'est souvent des récits de journalistes. Mmh. Et ce terme de non-fiction, il est né aux États-Unis, dans les années 50, même un peu avant. Et ce sont beaucoup des journalistes américains qui ont écrit comme des longs articles. C'est des choses qui ne se faisaient pas tellement en France. Et on appelle ça aussi l'écriture du réel. Voilà. Et donc, il a cette collection-là. Et un jour, on cherchait un sujet ensemble, mais je ne trouvais pas, on n'était pas pressé. Et un jour, il me dit, mais tu as vu ce qui s'est passé à Montreux, en Suisse, qui est une ville au bord du lac Léman, entre Genève et Lausanne. Et je dis non, pas du tout. Donc il m'envoie, je crois que c'était à l'article du Parisien, et on racontait que deux jumelles âgées de 40 ans, le mari de l'une d'elles et les deux enfants de l'une d'elles, âgés de 7 et 15 ans, s'étaient suicidés, avaient sauté du 7e étage d'un immeuble. Et je lui dis, oh, écoute Adrien, c'est terrible cette histoire, j'ai quand même envie d'avoir un minimum d'empathie avant pour raconter une histoire, comment veux-tu que j'ai de l'empathie avec une femme qui saute avec ses enfants, c'est terrible et tout. Et il me dit, et sans doute parce que il me dit ça parce que pour une double raison, c'est qu'il travaille au Seuil, et vous comprenez pourquoi, et parce que sa femme est romancière et d'origine algérienne, il me dit, mais tu as vu, apparemment, ce sont les petites filles de Mouloud Feraoun. Et là, ça m'a semblé plus intéressant. Alors, Mouloud Feraoun, j'en ai, contrairement à, je pense, beaucoup d'autres personnes, c'était pas pour moi un écrivain très connu, mais quand même, je le connaissais. Je vais vous dire comment je le connaissais. C'est assez bizarre, d'ailleurs. Et quand j'avais fait ce livre sur Patrick Buisson avec Vanessa Schneider, on avait raconté que quand il était jeune élève au collège qui jouxte le lycée Pasteur à Neuilly, c'était l'époque, en 62, on est 15 jours avant la fin de la guerre d'Algérie, en mars 62. Et donc, il y a 6 inspecteurs de l'éducation nationale qui sont fusillés par l'OAS à Alger. Okay. Et donc, le ministre de l'éducation nationale de l'époque décrète une minute de silence. Et donc, pour que tous les enfants des écoles publiques de France se lèvent. Et il y avait une quarantaine, une cinquantaine de refus. Et Patrick Buisson faisait partie de ces enfants qui avaient refusé de se lever en hommage aux 6 profs fusillés par l'OAS. Ouais. Et donc, c'était, l'hommage était essentiellement fait à Mouloud Feraoun, parce que c'était quelqu'un qui a Le Fils du Pauvre, qui est son livre culte, il a été vendu et traduit après 1 million d'exemplaires. Ça a été un livre extrêmement important dans les années 50 et 60, mais aussi aujourd'hui pour toute une génération, celle de votre âge, qui relit ou lit Le Fils du Pauvre, qui est un des livres qui raconte le mieux ce que c'était qu'une enfance kabyle juste avant la guerre et après, et qui est écrit en français, mais qui est un livre culte pour les Algériens, les Kabyles, mais aussi tous les enfants, tous les Tunisiens, les Marocains, etc. Et donc, cette histoire terrible, ce drame, je l'ai commencé à m'y intéresser à l'envers, c'est-à-dire que au lieu d'aller à Montreux, où il y avait 1000 journalistes diversier, j'ai commencé par lire les livres sur les conseils de mon éditeur, les livres de Mouloud Feraoun, et notamment son journal qui s'appelle Journal 1954-1962, qui est vraiment super, un super livre qui termine tragiquement, puisqu'il se termine la veille du jour où Mouloud Feraoun est assassiné. Et ce jour-là, lui qui croit à l'école, dont les enfants n'ont sans doute jamais séché un jour de classe, il dit à sa femme avant de partir à cette réunion avec ses collègues inspecteurs d'éducation nationale. Écoute, il dit, ça tape de partout, il y a des assassinats partout. Ne réveille pas les enfants, ne les envoie pas à l'école. Et c'est de là qu'on a tiré le titre du livre. Voilà. Donc là aussi, ça fait partie de pans complètement inexplorés de mon champ de connaissances. Et c'est ça que j'aime aussi, me plonger à fond. Dans une histoire que je ne connais pas, et même chose qui fait aussi partie de l'histoire de France, parce que cette exécution de six Français pendant la guerre d'Algérie est un des épisodes les plus effroyables et sans doute les moins racontés, les moins documentés. Donc j'étais aux archives pour me plonger là-dedans, où j'ai pas trouvé grand-chose, mais c'était quand même très intéressant. Et puis ça m'a permis de réviser ma guerre d'Algérie, si je puis dire, de rencontrer des descendants de ces personnes qui avaient été assassinées, de rencontrer, par exemple, j'ai rencontré la famille Boumedjel, Ali Boumedjel, j'ai passé un moment génial avec lui, et surtout je me suis intéressée à cette histoire de transmission au sein des familles, qui ne se fait pas forcément, mais on le voit dans beaucoup d'autres cas. Et je pense que pour la guerre d'Algérie, mais là évidemment je parle de manière empirique, parce que je suis pas, mais il s'est passé un peu la même chose que pour les petits-enfants de rescapés de la Shoah, c'est-à-dire que après la Shoah, il y a un silence qui s'installe pendant très longtemps. Les descendants directs n'en parlent pas beaucoup, et ce sont les petits-enfants qui se sont mis à raconter l'histoire des camps de concentration. Et bien, la guerre d'Algérie, d'une certaine manière, il s'est passé un peu le même phénomène. Ça saute une génération. Et c'est des traumatismes qui peuvent être hérités. Et donc, je me suis lancée, j'en fais pas du tout la main. Je suis incapable de dire si c'est l'explication unique, mais comme un suicide, c'est la forme la plus mystérieuse de toute mort, et comme il n'y avait aucune explication qui avait été trouvée, malgré les centaines d'articles qui ont été écrits sur le sujet, de petits films tournés, etc., je me suis demandé si ces deux jumelles n'avaient pas été traumatisées, peut-être même à leur insu, par ce qui était arrivé à leur grand-père, parce que c'est quand même pas rien d'être assassiné comme ça. Et du coup, je me suis lancée dans cette histoire dont on trouve beaucoup de cas, même si c'est pas établi, elle est documentée mais pas établie, donc j'étais voir des psychiatres, etc. Et il y a deux jours encore, c'était assez intéressant, j'étais invitée par l'Association française de psychiatrie pour parler de cette histoire de Montreux, où il y avait donc des tas de psychiatres, cette fois-ci c'était... et j'ai adoré cette soirée parce que j'ai appris plein de choses, et à la fin il y a des psychiatres qui... je disais, vous comprenez, je pense que si ça avait été les petites filles... alors le cas est mal choisi, de Jean Moulin ou d'Albert Camus, on aurait exploré cette ascendance, puisqu'on avait, le journaliste n'avait rien à se passer sous la main, on ne connaissait rien de cette famille, on n'a toujours pas réussi à comprendre. Et je me demandais si le fait qu'on n'ait pas exploré cette ascendance, c'est quand même une ascendance très directe, ça ne relevait pas un peu d'une forme de déni français sur la guerre d'Algérie. Et eux, c'était des psys, donc ils parlaient avec beaucoup d'intérêt. Et à la fin, je dis, mais en même temps, voilà, je vous dis ça, je n'en sais rien. Mais l'un des psychiatres a dit, mais c'est ça qui est bien. C'est la supériorité de la littérature sur la psychiatrie, c'est qu'on ne vous demande pas de savoir, vous avez juste ouvert une piste comme ça, et on ne vous demande pas de poser un diagnostic et de conclure, et je trouvais que c'était intéressant. Et donc je l'ai écrit sous forme de livre, parce que je pense que c'était typiquement quelque chose que je n'aurais pas pu écrire sous forme d'article, parce qu'il faut, si vous écrivez sur un fait divers, il faut quand même essayer de trouver, faut trouver une raison, enfin il faut se dire, ça y est, j'ai trouvé, je sais, et là je ne sais pas, mais simplement je pense que c'est bizarre de ne pas avoir exploré cette piste.
J'aimerais aussi qu'on parle, vous l'avez évoqué un peu, d'un bouquin, du bouquin de la communauté que vous avez écrit avec Raphaël Baquet, Attrape. Là également, l'idée est venue comment ça s'est passé ?
Non, c'est passé qu'on avait l'habitude de faire des livres ensemble, des livres politiques. Oui. En fait, on fait un tandem dès qu'on fait de la politique, et qu'on avait écrit presque à chaque élection présidentielle, voilà. Et là, la présidentielle ne nous intéressait pas du tout. Et on avait envie de... On s'est dit de quoi on parle, au fond, à table, aujourd'hui, beaucoup moins de politique et beaucoup plus de sujets sociétaux, etc. Et c'était juste... On était en pleine période de départ au djihad. Et il se trouve que Trappes et la ville avec Molenbeek en Belgique... Et la ville européenne, dont sont partis le plus de djihadistes. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on en parle, ça paraît très très loin déjà, trouve. Mmh. Hein, c'est donc 70 départs environ dans une même ville, et ça nous a intéressés. Et on s'est dit, à travers en explorant ce fait-là, on va aussi raconter l'histoire d'une ville, du 7-8, là pour le coup. On va essayer de raconter l'histoire de Trappes depuis les années, depuis l'après-guerre. Une ville cheminote, un carrefour ferroviaire. Une ville aussi proche d'usines automobiles. Et on va raconter l'histoire de l'immigration aussi à travers cette ville de Trappes. Et donc essayer de prendre un peu de recul. Voilà, donc on s'est plongé là-dedans. Mais, et d'ailleurs, je ne regarde pas, parce que comme ça, j'ai entendu parler de Félix Morat. Et on a essayé de raconter tout ça. Ce n'était pas facile. Ensuite, quand le livre est sorti, on a eu beaucoup de mal, en fait... Ça a été très compliqué parce qu'on était attaqué à la fois par ceux qui nous disaient c'est un livre stigmatisant et d'autres qui nous disaient c'est un livre complètement naïf, vous n'avez pas compris que ce qui se passe, le danger, tout ça et tout. Et j'ai un très mauvais souvenir de la sortie de ce livre parce que c'était. On ne savait plus en parler, on ne savait plus comment dire parce qu'on était critiqués de deux côtés et on ne savait plus que faire. Et je me souviens parce que j'ai adoré me plonger dans cette enquête et j'ai très mal vécu la sortie du livre, je me souviens.
Mais justement, vous avez fait comment pour... nous, c'est vrai qu'au Bondi Blog, on lit beaucoup de fait, tous nos confrères avec un regard critique souvent. Et tout ça, quand on se plonge sur un quartier comme ça, qu'est-ce que vous avez en tête ? Vous anticipez déjà qu'il va y avoir un accueil qui ne sera pas forcément... pas forcément ouf,
c'est forcément un sujet sensible. Tout est compliqué là-dedans, le choix d'un titre, tout est compliqué. Forcément, il doit y avoir Bon, d'abord, je pense que c'est la première fois que, et la seule d'ailleurs, où on nous a fait ce reproche d'une forme d'appropriation culturelle, je me souviens. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Et plus jamais après. On ne me l'a pas fait, ni sur Mouloud Feraoun, ni sur Félix Mora. Et là, le reproche était venu, mais vous parlez de Trappes, mais vous n'habitez pas à Trappes. Vous êtes parisienne, pourquoi vous... Comme si il n'y avait qu'un habitant de Trappes qui pouvait écrire sur la ville de Trappes. Alors peut-être que parce qu'il y avait sans doute forcément des maladresses, des, voilà, je ne sais pas. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup perturbée. Et moi, j'ai essayé de répondre que le journaliste, il doit parler justement de ce qu'il ne connaît pas. Et donc que c'était un reproche qui n'était pas bienvenu. Voilà, c'est vrai que moi, je ne parle que de sujets que je ne connais pas du tout. Je rentre dans la vie de gens que je ne connais pas, qui ont des souffrances que je ne connais pas. C'est ça, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre. Bon, voilà. Mais c'était intéressant parce que l'idée était quand même d'essayer de comprendre pourquoi il y avait eu tant de départs au djihad. Et donc, on s'est risqué, on n'a pas donné d'explication, mais on a beaucoup décrit, par exemple, ce truc très particulier qui est à Trappes, où on ne parle pas de cité, mais on parle de square, par exemple. Et on voyait, il y a une ville dans la banlieue lyonnaise où on parle de square aussi, mais c'est les deux seules villes de France. Et donc, le square qui est plus resserré que la cité, où les liens sont encore plus forts. Et on voyait bien qu'il y avait des départs au djihad par grappe, comme ça, carrément par square. Il y avait des squares entiers qui se retrouvaient. Elle a exploré les lieux de recrutement, raconter comment dans les années 90, il y avait des anciens du GIA qui s'étaient implantés, qui étaient venus par... à Dreux et qui passaient leur temps à Trappes, raconter tout ça aussi. Je me souviens d'avoir plongé dans le dossier d'instruction de Raled Kelkal pour essayer de comprendre. Ouais. Donc ça m'a passionné de comprendre ça. Et puis aussi, j'ai aussi compris combien l'histoire de l'immigration était peu racontée, mal racontée, parce que j'avais du mal à trouver des livres... je cherchais le bon livre qui me raconterait bien l'histoire de l'immigration française et je ne la trouvais pas, par exemple. On a très très bien raconté l'histoire de l'immigration italienne, espagnole, portugaise, tous les livres, le creuset français, polonaise aussi dans les mines. Ça, c'est très bien documenté, mais je ne trouvais pas de bon livre après. Donc en fait, j'ai puisé beaucoup plus dans les films, les romans, ça m'a intéressée. En fait, j'aime bien, quand j'aborde un sujet, essayer de m'y plonger à fond. Et notamment, c'est vrai que les films et les romans sont souvent un bon moyen de rentrer dans le sujet.
Souvent, dans du blog, on a beaucoup de gens qui écrivent des papiers, qui apprennent à raconter. On raconte des histoires, on fait des papiers. Et il y a ce moment où arrive, où on a récupéré tous les éléments, et on va mettre en musique tous les éléments qu'on a pris. Vous, vous mettez quand même très, 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 très bien en musique vos papiers. Est-ce que vous avez une méthode particulière? Est-ce qu'il y a
Je crois qu'on progresse tout le temps. Donc, moi, j'essaie à chaque fois. Peut-être que le fait que je n'ai jamais été, avant de commencer à faire du journalisme, une grande lectrice de journaux, par habitude, j'étais plus une lectrice de livres. J'ai besoin de tenir mon lecteur, j'ai pas envie qu'il me lâche, quoi. Donc j'essaye de lui donner envie de poursuivre le livre, l'article, et voilà, et j'essaye de donner le plus de détails possible. Je pense que c'est les détails qui vous donnent... qui vous donne envie de rentrer dans un article. Je pensais, le week-end dernier, il y a une de mes amies qui s'appelle Judith Pérignon, qui vit la moitié du temps à Détroit maintenant, et qui a raconté Détroit à quelques mois de la présidentielle. C'est l'une des villes où il y a la plus grande communauté musulmane qui a décidé de dire non, on votera pas Biden parce que c'est pas possible à cause du conflit israélo-palestinien. Donc on va faire un vote sanction. Mais ce que j'ai tout appris dans cet article, je connaissais rien. J'ai adoré son sens du détail. On a l'impression qu'on est avec elle, dès qu'elle fait un entretien, dès qu'elle va à un meeting, dès qu'elle va à un conseil municipal, elle raconte même ce qu'elle mange. Et je trouve que j'étais là, j'étais à Détroit avec elle. C'est ça que j'aime dans un reportage. Bon, ça, et dans une enquête, c'est différent parce qu'il y a aussi mille formes de journalisme écrit. Hein. On n'écrit pas de la même manière un reportage qu'on écrit une enquête, où là, il faut être au contraire. Plus parcimonieux, une écriture plus serrée, plus sèche, où on n'a pas besoin de faire des fioritures. Et puis je crois aussi que comme je vais un peu plus à l'étranger en ce moment, je lis davantage de la presse anglo-saxonne et à chaque fois, je suis fascinée par les différences qu'il peut y avoir entre la manière, le journalisme français et le journalisme anglo-saxon. Le journalisme anglo-saxon, d'abord, il ne cite pas une personne sans donner son nom, son prénom, son âge. Et ça commence à imprégner d'ailleurs, par exemple, c'est le cas de Mediapart, qui jamais ne fera un témoignage anonyme. Et moi, j'essaie de jamais faire un témoignage anonyme. Je trouve que les papiers politiques, il y en a trop. Voilà. Donc ça, c'est une habitude anglo-saxonne. Et en même temps, dans la presse anglo-saxonne, ce qui me fascine, c'est que ce sont des petites phrases courtes, des paragraphes courts, où le style n'a finalement pas tellement d'importance, où on n'hésite jamais à répéter 2-3 fois les mêmes mots dans une phrase, chose qui, pour un journaliste français de presse écrite, est impensable. On passe des heures à aller dans le dictionnaire des synonymes et essayer de trouver un truc. C'est d'accord, Faïza, mieux. Et voilà, donc ça m'intéresse aussi, les pratiques différentes suivant les pays.
J'ai une dernière question pour vraiment finir. Après, vraiment, on arrête. Si aujourd'hui, vous avez l'occasion de travailler sur quelqu'un, donc excepté les personnes sur qui vous travaillez réellement en ce moment, en France, c'est qui la personnalité qui vous intéresserait le plus ?
Ça va vous paraître complètement aberrant, et je viens d'y réfléchir, mais c'est parce que comme je sais qu'il ne veut pas me voir et que je n'ai toujours pas compris qui c'était, Macron. Je ne comprends toujours pas qui c'est, je trouve qu'on ne sait rien sur lui. Je n'ai rien lu de convaincant. Et il veut plus me voir depuis l'affaire Benalla. Et donc, voilà. Ouais, mais c'est vraiment pas... Je vous déçois, là, avec Macron. Je sais pas.
Non, mais pas déçu.
Bon.
Non, mais ouais, pourquoi pas. En vrai. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Merci à Ariane Chemin pour son temps. Si vous passez par Bondy, n'oubliez pas que les masterclass sont ouvertes à toutes et à tous. Et toutes nos infos sont à retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des masterclass du Bondy Blog. Ciao !